FM Radio.
L'émission du lycée des métiers François Mitterrand.
Rendez-vous ce mercredi 13 février à 18h sur Radio Morvan.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à notre deuxième émission LFM Radio, l'émission des lycéens du lycée des métiers François Mitterrand de Château-Chinon. Je vais commencer par me présenter. Je suis Tatiana et je serai votre animatrice pour cette nouvelle émission. Vous découvrirez également de nouveaux chroniqueurs tout au long de ce numéro, à travers ces différentes chroniques. Les actualités du lycée, le sport, les mangas, la musique, les news high-tech, les animaux, les jeux vidéo et le cinéma. On commence avec Joey sur les actualités du lycée.
La vie au lycée.
Et tous ses secrets.
Bonjour Joey.
Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique l'actu du lycée. Je vais vous parler de deux actualités. D'abord, on va faire un petit retour sur l'échange franco-allemand qui a eu lieu entre le 4 novembre 2018 au 13 décembre 2018 entre les élèves des terminales hôtellerie-restauration du lycée et les élèves allemands d'un lycée de Potsdam. Ensuite, je vous parlerai d'une exposition à propos de la Shoah qui est installée au CDI de notre lycée. Pour commencer, je suis allé à la rencontre de mes camarades de Terminal MRH pour qu'ils nous parlent de leur séjour en Allemagne. Qu'est-ce que tu as aimé pendant ton voyage et qu'est-ce que vous avez visité ?
J'ai bien aimé le voyage, on a visité plein de trucs à Berlin, à Potsdam, il y a une alliance d'amitié qui s'est créée très vite avec nos binômes allemands, en plus les filles là-bas sont pas mal. Non mais c'est un très beau pays où là-bas en vélo, ils aiment beaucoup les vélos là-bas. À Potsdam on a visité le château de Montsouci et à Berlin on a visité la porte de Brandenburg. On a visité à Potsdam le quartier de Babelsberg et le parlement de Berlin aussi. Et de Madame Merkel.
Alors, qu'est-ce que j'ai aimé pendant mon voyage ? Découvrir la langue allemande, parler allemand, découvrir de nouvelles cultures. J'ai visité le mur de Berlin, je suis allée à Berlin.
Tout d'abord, on a visité Potsdam, Parlement à Potsdam. On a fait un petit peu la visite de la ville avec les Allemands. On a fait une sorte de course d'orientation pour mieux apprendre à les connaître et puis pour en même temps visiter la ville. Ils ont fait un petit peu les traditions allemandes pour nous initier en quelque sorte. C'était assez sympathique. Puis ensuite, on a visité Berlin. Donc, on a visité un petit peu les grands édifices de Berlin. Puis après, le Parlement.
Où as-tu passé ton stage ?
Alors, moi, j'étais le seul élève à passer mon stage à Berlin, dans un hôtel 5 étoiles, contrairement aux autres à Potsdam. À Berlin, c'était assez dur parce que je savais pas parler ni allemand ni très bien anglais. Donc, la première semaine, j'ai pas mal galéré. Mais sinon, c'était un bon stage dans mon hôtel. Ouais, c'était un très bon hôtel avec nos binômes allemands qui nous accompagnaient pendant nos stages. On les a ramenés aussi en France. On a fini nos stages en France avec eux. On a visité Paris.
J'ai passé mon stage à Arcona, un hôtel-restaurant, avec ma correspondante allemande à Potsdam.
Alors, j'ai passé mon stage vers le Château Sans Souci, à Mövenpick. C'est un restaurant international, il y en a dans plusieurs pays, sauf en France malheureusement. Ils sont assez connus pour ces glaces qui sont vendues en France par contre, c'était assez sympa, il y avait beaucoup de couverts.
Tu avais le même correspondant en Allemagne et puis en France ?
Non, on a changé de correspondant en Allemagne, j'avais un cuisinier qui m'a accompagné dans mon stage dans ce grand hôtel. Et en France, j'étais accompagné d'un serveur... à Beaune, dans un hôtel 3 étoiles.
Est-ce que ton stage s'est bien passé ?
Oui, très bien. J'ai pu apprendre leur déroulement de leur service, comment ils font pour servir, et puis ils m'ont appris beaucoup de choses.
Mon stage s'est super bien passé, c'était le meilleur stage que j'ai jamais réalisé au temps du lycée, avec tous les stages que j'ai faits. Non, franchement, c'était le meilleur.
Est-ce que c'était dur la communication avec les Allemands en général ?
Ah non, avec les Allemands, vu qu'ils ont à peu près le même âge que nous, on arrivait à facilement communiquer en anglais, en langage des signes et en allemand.
Un petit peu, ouais. Un peu beaucoup même.
Avec mon correspondant allemand, ça s'est bien passé, comme avec les autres Allemands aussi, ça s'est très bien passé. On a eu quelques délires. Alors, personnellement, pour moi, ça a été assez simple, surtout avec l'anglais. Parce que l'allemand, je connaissais pas beaucoup avant. Je séchais pas mal les cours où j'apprenais pas beaucoup, mais maintenant je suis assez motivé parce que je vais retourner là-bas. Mais grâce à l'anglais, on arrivait à bien communiquer, oui.
Comment as-tu trouvé l'accueil en Allemagne ?
Très bien. On a très bien été accueillis.
Au début, c'était un petit peu timide. Le groupe allemand comme le groupe français est un petit peu timide de parler à l'autre. Mais au fil du temps, c'était beaucoup plus simple, c'était assez chaleureux.
Je suis allé aussi en Allemagne. On a fait beaucoup de visites et j'ai bien aimé ce stage en Allemagne. Autre actualité, au lycée des métiers François Mitterrand, une exposition sur la Shoah installée au CDI. Je suis allé interviewer Madame Gontier, professeure de lettres histoire, qui est à l'origine de cette exposition. Bonjour Madame Gontier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview.
Ça me fait plaisir, c'est important, donc je te remercie toi.
Vous proposez une exposition sur le thème de la Shoah. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur le contenu de cette exposition ?
C'est une exposition qui vient d'Israël, du centre de formation de Yad Vashem. Yad Vashem, c'est à la fois un musée et une école qui explique comment transmettre la mémoire de la Shoah. Et donc, c'est des panneaux qu'on nous a offerts quand j'ai fait cette formation et qui retracent tous les événements dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple juif depuis le début jusqu'à la fin de la guerre.
Comment avez-vous préparé cette exposition et avec qui ?
Alors, justement, avec l'école dont je parlais, donc avec Yad Vashem, on nous a présenté ces panneaux. Et puis moi, après, comme j'avais fait beaucoup de formations sur la Shoah à Paris, en Pologne et donc en Israël, j'ai pu construire la visite guidée moi-même avec les informations que j'avais.
On avait vu des panneaux avec des feuilles oranges, vous l'avez fait avec une classe.
Oui, donc avec la classe de 3e, je leur avais donné quelques-unes des affiches de l'exposition et ils devaient justement rappeler sur les affiches qu'ils ont créées eux ce que c'était le nazisme et les idées nazies.
Est-ce que toutes les classes participent à la visite ?
Oui, normalement il est prévu que toutes les classes du lycée participent, donc là il y en a déjà 11 qui sont passées. Et puis on reprendra après les vacances de février. Donc d'ici à la fin de l'année, normalement, tout le monde devrait être passé.
Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la Shoah aux élèves ?
Pour moi, c'est important déjà de replacer les événements parce qu'on dit beaucoup de choses sur la Shoah, on montre beaucoup de choses à la télé et souvent les gens ont une vision morcelée, c'est-à-dire qu'ils ont quelques éléments mais pas l'ensemble. Et là, ça permet de reposer le contexte, les événements, et c'est important de comprendre comment la haine, à l'époque, est partie de pas grand-chose et de devenue une vraie barbarie. Et ça permet parfois, à mon avis, c'est le principal rôle de l'histoire, c'est qu'en voyant des choses du passé, à essayer de ne pas faire les mêmes erreurs, ou en tout cas d'en tirer une leçon pour essayer de mieux vivre ensemble. Donc pour moi, la Shoah, ça permet de comprendre comment la haine peut se développer si on n'y fait pas attention. Et ça permet de se positionner pour un mieux vivre ensemble, justement, et pour plus de tolérance.
Et vous voyez un lien entre le racisme d'aujourd'hui et puis la Shoah qui s'est passée il y a des années ?
Oui, bah c'est un petit peu ce que je disais là. Oui, il y a un lien, même si les choses ne se répètent jamais dans l'histoire. Je vais prendre mon exemple, moi, d'avoir connu ça, d'avoir appris ce qu'était la Shoah. Ça m'aide aujourd'hui dans ma vie à faire attention à la façon dont je m'adresse aux autres, à ne pas juger aujourd'hui, parce que même si la guerre est terminée, le racisme est encore là. Et qu'en connaissant l'histoire, on sait qu'elles peuvent avoir les conséquences de nos actes quand on est dans l'intolérance et dans la haine. Donc le lien, pour moi, il est très fort, parce que c'est la barbarie d'hier qui peut nous aider à éviter la barbarie aujourd'hui, quoi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et merci de nous proposer cette exposition sur la Shoah qui nous apprend beaucoup de choses.
Merci à vous de vous y intéresser et c'est une petite interview. Merci beaucoup.
J'ai également interviewé des élèves pour avoir leur ressenti à propos de leur visite de l'exposition. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette exposition sur la Shoah ?
Expo très intéressante. Elle nous permet d'apprendre beaucoup du passé.
L'exposé était très intéressant. On a appris beaucoup de choses qu'on ignorait. Ça a démontré le vrai du faux de ce qu'on entendait dans les rues, à travers les films, les documentaires, etc. Donc c'était vraiment intéressant et je recommande à tout le monde d'aller voir l'exposition.
J'ai trouvé ça très intéressant et puis il y a eu beaucoup d'explications aussi, des choses qu'on ne savait pas forcément. Et bah voilà, quoi, il y avait plein de petites choses qu'on n'apprend pas forcément en cours et qu'on ne voit pas dans les films.
Tu connaissais ce mot avant, la Shoah ?
Non, pas vraiment. La Shoah est un mot que je ne connaissais pas avant et que je viens de découvrir grâce à Expo.
Si, si, c'est un terme que j'ai appris dès le collège, donc pour moi c'est un mot que tout le monde devrait connaître.
Oui, j'ai appris ça au collège aussi, et puis c'est quelque chose qu'on apprend très tôt aussi. Puis on entend ça beaucoup dans les films.
Est-ce qu'il y a une information sur la Shoah que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent ?
Oh ben c'est affreux, c'est horrible, c'est l'extermination d'une population, il n'y a rien de comparable à c'est l'horreur, tout simplement.
Une information qui m'a choquée, c'est que les Juifs ont été comparés à des vermines, alors que c'est des humains comme toi et moi.
Le nombre de meurtres ne devrait plus se reproduire du tout dans l'existence de l'humanité.
Et qu'est-ce que tu vois en ce moment entre le racisme et la Shoah ? Est-ce que tu vois un lien ?
Oui, parce que le racisme, malgré tout, on en voit tous les jours, après tout le monde et pour n'importe quoi. Donc il y a quand même un lien qui existe.
Le monde n'a pas beaucoup changé quand on compare maintenant et avant. Et donc du coup, on voit beaucoup, même que ce soit dans les lycées ou même les écoles, beaucoup de liens grâce au racisme et toutes les remarques pessimistes qui peuvent être faites.
Ah oui, c'est comparable. Puis on voit beaucoup le cas avec les migrants en ce moment et beaucoup de pays aussi qui refusent également d'accueillir ces migrants. Et ça devient problématique parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'ils vont aller également. Donc c'est un lien, un gros lien même.
Et vous, est-ce que ça vous a plu ?
Pour ma part, j'ai trouvé l'exposition très bien et très intéressante par son contenu. Ça a été une exposition très enrichissante et je pense que cette expo a été une excellente idée, car il est important de ne pas oublier ce qu'il s'est passé et de savoir un maximum de choses sur cet événement, puisque beaucoup de personnes pensent que la Shoah concerne uniquement quelques pays, alors que cela concerne vraiment tout le monde.
Cette exposition est installée au CDI jusqu'au mois d'avril pour que tous les élèves du lycée puissent en profiter. C'est tout pour cette rubrique. À toi, Tatiana.
Merci, Joey. Maintenant, je vais laisser la parole à Joachim, Benoît et Axel pour la chronique sport. Ils vont nous parler du handisport et de chevaux cross.
Le sport, on adore !
Bonjour les garçons.
Bonjour Tatiana.
Bonjour tout le monde.
Nous voulons vous parler du handisport, car c'est un sport qui n'est pas encore assez reconnu pour ce qu'il est.
Le handisport est le sport pratiqué par les personnes en situation de handicap physique. Il y a une fédération du handisport dans la Nièvre. On va vous parler de la natation version handisport.
La natation handisport est un sport qui se pratique sans prothèse. Comme ça, ils sont beaucoup plus libres de leurs mouvements. Ils peuvent faire de la natation dans n'importe quel club.
Il n'y a pas d'entraînement spécifique. Les règles en compétition ne changent pas tant que ça, à part pour les personnes en situation de handicap visuel et ceux qui ne peuvent pas se tenir debout.
Oui, les personnes en situation de handicap visuel, eux, auront des assistants pour leur virage. Et les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se tenir debout sur un plongeoir, eux, commenceront leur départ dans l'eau comme pour un départ de dos.
Le champion du monde S9 en 100 mètres est français. Il s'appelle Hugo Didier. À 16 ans, il est élève en terminale S au lycée polyvalent Françoise de Tournefeuille, juste à côté de Toulouse. Il est né les pieds beaux. C'est une maladie qui fait que les pieds de la personne en situation de handicap sont mal orientés.
Cette maladie touche 1 à 2 personnes sur 1000. Merci d'avoir écouté.
Bonjour Tatiana, bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du deux chevaux cross. Donc le deux chevaux cross est un sport automobile créé par Citroën et les adhérents du groupement de chevaux cross. Le groupement de chevaux cross a pour but de développer les courses et établir des règles. Le but est de prendre une deux chevaux entièrement d'origine, d'enlever sa capote, ses portes arrière, de mettre un arceau de sécurité, de remplacer les vitres de porte et le pare-brise par du grillage, de laisser le moteur et la boîte entièrement d'origine et de rajouter un arceau moteur, de changer les échappements et de la peindre d'une belle couleur pour impressionner les paddocks. En 1978, Citroën est et totale délaissent le deux chevaux cross. Mais ils étaient loin de se douter que 40 ans plus tard, ce sport serait toujours autant connu. Chaque année, plus de 150 pilotes participent toujours au championnat de France de deux chevaux cross. Cette année 2018 aura connu une augmentation de ces pilotes par l'arrivée du team de la belle Dush avec leurs deux chevaux bleu-blanc-rouge qui fut venir Automoto TF1, ce qui fit revivre le deux chevaux cross comme l'aura précisé le directeur du groupement de chevaux cross. Rendez-vous à la prochaine saison. Tatiana, c'est à toi.
J'espère que cette chronique vous aura appris des choses. Merci encore et nous retrouvons maintenant Loris avec sa chronique manga.
Konnichiwa, manga wa nashimashou.
Qu'est-ce que tu causes ?
Bonjour, parle manga.
Bonjour Loris.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un manga japonais appelé Death Note. A la base, Death Note est un manga papier écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takashi Obata. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump à partir de décembre 2003 jusqu'à mai 2006. Ensuite, Tetsuro Araki, réalisateur japonais, crée un célèbre animé de 37 épisodes dont la première diffusion a lieu le 3 octobre 2006 jusqu'au 26 juin 2007. L'animé est disponible sur plusieurs plateformes de streaming comme YouTube, Netflix ou aussi Gum Gum Streaming. Death Note a également été adapté en film. Le manga est un manga policier, mais surtout surnaturel et fantastique car il consiste à écrire dans un cahier le nom d'une personne dont on veut la mort et la façon dont elle va mourir. Un jour, un jeune homme appelé Light Yagami, ou Kira, trouve ce carnet et un dieu de la mort apparaît et l'accompagne dans ses démarches. Toutes les polices de Tokyo se mettent à enquêter pour trouver le fameux Kira. La police, débordée et désespérée à l'idée de trouver le tueur, fait appel à un enquêteur très réputé appelé L. Mais L savait que le véritable tueur était Light Yagami. Mais il n'avait aucune preuve concrète. Pour connaître la suite, je vous conseille d'aller le regarder en streaming ou bien même de lire le manga. Merci à vous de m'avoir écouté, bonne journée et à bientôt.
Il faut vraiment que je commence ce manga, merci Loris. Vous allez à présent vous détendre un peu avec la musique présentée par Michael, Blandine et Maxime.
Salut l'équipe, salut à vous chers auditeurs. Soprano, de son vrai nom Saïd M. Roubaba, est né le 14 janvier 1979 à Marseille. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants et deux de ses frères sont aussi rappeurs. Diego du groupe Suija et Carlos du groupe Liaison Meurtrière.
Soprano commence à faire de la musique vers 16 ans, mais pas de rap. Il tient son blaze de sa tessiture vocale. En 1995, fonde son groupe avec des potes du collège, groupe dont il est le MC. Le groupe s'appellera d'abord Kabidi, puis s'intitulera Psyka de la Rime.
Je n'arrive pas à assumer ce que Dieu me donne. Je passe mes nuits dans le lit d'un verre de rhum. J'ai mon trône au milieu des lâches. Ma couronne sertie par les larmes que ma famille me lâche. Car je suis une loque. Je vis au crochet de ma femme et de ses allocs. Je cours derrière cette jeunesse passée dans un bloc. À attendre que tu viennes me bercer. Mais ce soir un temps, elle vient me chercher.
Après plusieurs années avec son groupe, il entamera sa carrière solo avec le soutien de ses acolytes. En 2006, il se fait connaître grâce à son hit « Moi j'ai pas », extrait de son premier album « Puisqu'il faut vivre ».
Moi j'ai pas la culture d'AKH, ni la plume de Oxmo, ni la culture du double H. Moi j'ai pas la créatine de 50, ni la femme de Jay-Z. Moi j'ai pas les dents en or de Joey, ni le rang de Cool Chain, ni la MPC de Dr. Dre.
De nos jours, Soprano revient avec un nouvel album intitulé Phoenix, avec notamment le feat avec Niska, appelé Zoom, que l'on va écouter tout de suite. Merci à tous de nous avoir suivis, bonne fin de journée et à bientôt.
Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shahouela. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. Maintenant au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yezou, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda.
J'ai tout pris dans la bijouterie. J'ai pas laissé mon ADN.
Ah ouais, ah ouais.
bâtard, tu pètes. Evry, c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin ou plomo, tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flingue dans la wagon. Bye bye, bye. Chiant, Vita, Fixo, bras-toi, t'es dans l'ombre.
La cité, la cité.
Chiant, quand les flics pas on a dit mon nom.
La cité, la cité.
Toto, Rina, c'est pequeño.
Au Brasilia.
Fodes, Caray, Obre, Chico.
Cocaïna. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda. Zou, zou, zou. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda.
Merci à vous trois. Je vais laisser la parole à Baptiste et les News High Tech. Bonjour Baptiste, c'est à toi.
Bonjour Tatiana, bonjour chers auditeurs. Je vais parler de l'High Tech. Je vais vous faire un petit récapitulatif du salon Consumer Electronic Show.
C'est quoi ce salon ?
C'est le salon annuel le plus important consacré à l'innovation technologique destiné au grand public. Il s'est déroulé du 8 au 11 janvier à Las Vegas. Dans toutes les innovations dévoilées, j'ai surtout retenu des machines créées pour simplifier la vie quotidienne. Par exemple, Fortimate, qui est une machine conçue pour plier les vêtements de manière autonome, étant capable de plier 25 vêtements en 5 minutes. Du côté cuisine, un bras robotique nommé Mollet a été développé pour cuisiner tout seul. Il peut réaliser 2000 plats. Restons dans l'espace cuisine avec un réfrigérateur qui se déplace où vous voulez. Il a été créé par Panasonic. Du côté des sorties de marques qui ont surpris le public, il y a la marque Royal avec le FlexPay, un smartphone qui est pliable. Dans le domaine de la télévision, LG a lancé un téléviseur qui est enroulable. L'écran se met en mouvement sans un bruit et s'enroule pour disparaître dans son socle, qui fait également office de barre de son de 100 watts. Pour conclure, je dirais que les innovations présentes sont surtout pensées et faites pour simplifier la vie quotidienne de l'acheteur. Merci à tous pour votre écoute et à très vite.
Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. À présent, c'est moi-même qui vais vous présenter la chronique sur les animaux.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal en voie de disparition, le dragon de Komodo. C'est un animal de la famille des Varanidae. C'est la plus grande espèce vivante de lézard avec ses 2 à 3 mètres et sa masse de 70 kg. Il vit principalement dans les îles de Komodo, Rinca, Flores et les deux îles Gili. Le dragon de Komodo a été découvert il y a un peu plus de 100 ans, en 1910, quand un avion s'écrase dans la mer de Komodo. L'aviateur nage alors jusqu'à une des îles et découvrit cette nouvelle espèce. Puis en 1912, une expédition scientifique a eu lieu et ils capturèrent plusieurs dragons. Ce sont des animaux carnivores. Il est possible de voir ces animaux dans certains zoos, comme celui de Singapour, Londres ou Washington, ou en allant directement sur les îles. C'est un animal venimeux de par sa morsure proche du venin du serpent. Il ressemble à un mélange entre le lézard et le crocodile avec une langue de serpent et des dents pointues non pas droites mais vers l'arrière. Il reste environ 6000 individus, mais les habitants ont décidé de faire une réserve naturelle et ainsi repeupler l'espèce. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir appris des choses et maintenant on se retrouve pour une autre chronique.
Nous retrouvons de nouveau Joey pour les jeux vidéo ainsi que Noémie. Je vous laisse la parole.
Les jeux vidéo, en quelques mots.
Bonjour Tatiana, bonjour tout le monde. Je m'appelle Noémie, j'ai 17 ans et je suis en bac pro SSP. En effet, aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo sur les portables. J'ai été interviewer certains de mes camarades pour savoir à quel jeu ils jouaient le plus souvent sur leur téléphone.
Je joue à Idle Manor et ce jeu consiste tout simplement à engager des employés qui sont censés miner de plus en plus vite certains minerais qui rapportent de l'argent à notre entreprise.
6-7 heures, ouais.
10 sur 10, c'est un jeu qui est très bien fait. C'est très bien fait, il y a de beaux graphismes et puis le principe est très bien trouvé. Ah oui, je le conseillerais, c'est un jeu qui est addictif, auquel tout le monde peut jouer, c'est simple d'utilisation, voilà.
Alors en fait, le jeu où je joue le plus, c'est Clash of Clans. En fait, ça consiste à faire un village, après augmenter de niveau pour avoir des troupes de plus en plus fortes, enfin voilà, faire des combats, voilà, avoir le plus de trophées.
Bah ça dépend, le week-end c'est environ tout le week-end et la semaine c'est le soir.
Alors je mettrais environ 9 sur 10. Alors je mettrais 9, je n'attribuerai pas la dernière étoile à mon jeu car il y a souvent des bugs en fait. Des bugs par rapport aux jeux en ligne, enfin voilà, il y a des défauts dans l'application. Je vous conseillerais ce jeu car c'est un jeu assez animatif, c'est pour les enfants de 10 à 15 ans, voilà. Moi qui en ai 18, c'est un peu trop grand, mais c'est un jeu très interactif qui demande beaucoup de patience, voilà, car on a des améliorations qui durent plus d'un jour. Donc voilà, c'est un jeu très responsabilisé.
À 4 mots, une image. Ça consiste à... Vous avez 4 images et faut trouver un mot avec ces 4 images. Voilà. Ça dépend, quand j'ai le temps en fait. Sinon je joue pas. Bah ouais, parce que ça permet de réfléchir un peu. Et puis 8 sur 10. Parce que des fois c'est dur en fait. Je trouve pas. Voilà.
Je joue souvent à Clash Royale. Ça dépend, mais en moyenne j'y passe entre 1h30 et 2h. Je dirais 8 parce qu'il y a souvent des petits bugs de connexion ou des mises à jour inutiles, donc un petit 8. Oui, je le conseillerais parce que c'est divertissant et bon, c'est pas très ludique, mais ça passe le temps, c'est sympa, il n'y a pas besoin de payer, c'est cool.
Je joue à Angry Bird, et Angry Bird en fait c'est le but, on lance des oiseaux pour détruire des tours et tuer des cochons. Bon, je sais pas, 30 minutes, 6h30. Parce que c'est bien.
Un Mine Survival. Et le but, c'est de construire son propre monde. Entre 1 et 10 heures par jour. 9 comme c'est ultra bien.
Le jeu sur lequel je joue le plus souvent en ce moment, c'est Geometry Dash. Alors en gros, c'est un petit cube qui doit parcourir un parcours assez difficile, suivant les niveaux. Plus le niveau est élevé, plus forcément ça sera difficile. Et en gros, faut arriver à la fin sans mourir. Oh, 20 minutes grand maximum. Bah, je trouve que c'est un bon moyen de se concentrer parce que du coup ça... Comment dire, vu qu'on est concentré dans le jeu, juste après on reste encore concentré quelques instants et ça permet de bien réfléchir, enfin voilà quoi. Puis c'est un bon passe-temps aussi, j'aime bien. J'irais 8 sur 10, pas 10 parce que je rage souvent dessus, parce que mourir 15 fois sur le même endroit c'est un petit peu saoulant quand même. Hein.
Je joue plus à Pokémon Go et en fait c'est de trouver des Pokémon un peu partout dans toutes les villes. Ça dépend, ça peut aller de 10 minutes à 3 heures. Bah oui, quand même, parce que ça fait faire du sport, ça fait marcher. Donc pour ceux qui disent « faut pas de sport », faux, on joue à Pokémon. Et oui, si, bah franchement, c'est pas mal. Puis ça développe beaucoup de choses, comme l'attention, parce qu'il faut faire beaucoup attention dans l'environnement où on peut se trouver, et puis voilà.
Clash Royale, ça consiste des combats en ligne, avec différentes cartes, qu'on gagne dans des coffres. Je conseille pas, parce que c'est long à commencer.
Moi je joue à Subway Surfer. à courir et on doit passer sur des trains, sauter, se baisser. Par jour, peut-être 3-4 heures. Bah, je pense qu'il est bien. Ça passe le temps, en fait. Quand on n'a rien à faire, ça passe le temps. Voilà. Sur 10, 8 sur 10.
Moi-même, je joue à des jeux sur mon téléphone. Celui auquel je joue le plus souvent, c'est 94%. Ce jeu consiste à trouver un certain nombre de mots par rapport à un thème ou à une image. J'y passe environ 10 à 15 minutes par jour, parfois plus suivant le temps que j'ai. Je conseillerais ce jeu car ça fait beaucoup réfléchir et si je pouvais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un 8 sur 10 car parfois les mots sont hyper difficiles à trouver, mais il est bien quand même. Merci à tous. Joey, je laisse ma place.
Me revoilà pour vous parler du métier de vendeur de jeux vidéo. Je suis allé à la rencontre de la vendeuse d'un magasin de jeux vidéo pour demander quels sont les jeux les plus demandés en ce moment. Bonjour, merci de me recevoir et de me permettre de vous interviewer pour notre émission de Radio Lycée. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Oui, donc bonjour, je suis Cécile Cramant, responsable du magasin Game Cash à Nevers. Et avec moi, il y a mon assistant, Johan Willem.
Oui, bonjour.
Et donc l'entreprise Game Cash, on est une franchise déjà qui est sur Nevers depuis 2013. Donc nous sommes trois sur le magasin. Nous avons aussi une collègue Jennifer, vendeuse. Et puis nous vous faisons de l'occasion, de la reprise d'occasion, rachat sur tout ce qui est console, jeux vidéo, tout support. On travaille aussi pas mal avec le rétro, tout ce qui est rétro gaming, anciennes consoles. Et on développe aussi les rayons goodies, donc culture geek, donc tout ce qui est attrait aux jeux vidéo,
produits dérivés,
tout support, Dragon Ball par exemple, Fortnite, qui est très en vogue en ce moment.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Alors moi personnellement, c'était pas un choix. Par la force des choses, je me suis adaptée au métier et puis ça me plaît beaucoup. Mais mon collègue, par contre...
Oui, bah moi c'est un peu différent. Moi j'étais déjà bercé dans le jeu vidéo depuis très longtemps. Et puis après j'ai fait des études de vente, donc du coup ça s'est associé.
Quel diplôme doit-on avoir pour travailler dans un magasin de jeux vidéo ?
Alors, déjà je pense un diplôme qui soit adapté au métier de la vente, donc plutôt bac pro commerce ou métier de la vente.
Ouais.
Voilà, comme mon collègue Johan.
Quel genre de jeux vidéo sont le plus populaire en ce moment ?
C'est du classique, on va dire, c'est tout ce qui est toujours depuis des années, FIFA, Call of Duty, sans compter le Fortnite qui est là depuis facilement 2 ans. Et après, toutes les gros dernières sorties comme le Red Dead, les Assassin's Creed.
Qui sont les joueurs de jeux vidéo qui fréquentent votre boutique ?
On a une catégorie plutôt diverse et variée. En général, la moyenne d'âge, on est plus entre 20 et 35 ans.
Ouais.
Mais c'est tout public, on va dire. On a vraiment une large clientèle.
Peut-être un peu plus âge. Masculin quand même.
Voilà.
Allez, peut-être un chouïa, ouais.
En moyen, quel est le budget mensuel pour un joueur de jeux vidéo qui passe dans votre magasin ?
Alors ça dépend, mais c'est en moyenne, on est sur un jeu à deux jeux neufs par mois, je dirais. Et encore, c'est difficile à déterminer, je dirais, une moyenne de 100 euros par mois.
Ouais, c'est ça à peu près. Après, t'en as qui vont dépenser beaucoup plus, alors qu'il y en a qui n'ont pas forcément toujours les mêmes moyens. Quoi.
Et c'est le principe aussi de revendre ces jeux pour racheter d'autres jeux, c'est ça qui fait que ça fonctionne bien, le marché de l'occasion. Quoi.
Est-ce que vous jouez et quel genre de jeu est-ce que vous recommandez ?
Alors moi, personnellement, je ne joue pas plus que ça. Mes enfants, oui. Et ce qui marche très très bien en ce moment, c'est tout ce qui est Fortnite. Voilà, c'est Fortnite. Ça...
Et vous jouez beaucoup ?
Ouais, moi je suis plus un joueur vraiment solo. Tout ce qui est gros jeux d'aventure, les Red Dead, les Dragon Quest, tout ce genre de trucs.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Sans problème.
Bonne journée.
Merci à toi.
À toi, Tatiana.
Merci vous deux. Pour finir, nous écoutons Alex et Tania pour la chronique cinéma, les films les plus attendus cette année. Bonjour les filles.
Bonjour Tania, bonjour chers auditeurs.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui dans la chronique cinéma, nous allons vous parler des films les plus attendus de 2019.
En effet, pour cela nous avons réalisé un micro-trottoir de plusieurs personnes pour savoir quels films étaient les plus attendus cette année.
Vous allez les entendre, les films Disney ont la cote cette année 2019. Sans perdre une seconde, nous allons l'écouter.
Quel film tu voudrais voir à tout prix cette année ?
Le Roi Lion.
que genre j'ai déjà vu le dessin animé et en film j'ai déjà vu des bandes annonces, ça a l'air sympa et ça a l'air fantastique et tout, donc ça serait sympa de le voir.
Le film Dumbo.
Bienvenue bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand.
Bah parce que c'est trop mignon, puis on voit un éléphant qui vole, donc c'est pas normal.
Le 9e Star Wars.
Maître des chevaliers de Rey. Tu n'as jamais eu à relever un tel défi.
Parce que les deux précédents de cette trilogie, je les ai trouvés très bien, du coup j'aimerais bien voir la fin.
J'aimerais bien voir Avengers 4.
Y'a quelqu'un ? Hey, c'est Scott Lang ! On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne ! J'étais super grand !
C'est un ancien message ?
Ant-Man ! Je suis sûr qu'on se connaît !
C'est la porte principale.
C'est moi ! Quelqu'un peut m'ouvrir ?
Parce que le monde des Avengers, c'est un univers qui me passionne tout simplement.
Pour terminer cette chronique, Tania et moi allons donner nos préférences. Pour ma part, les films que j'attends le plus cette année sont Dragon 3, qui est un film d'animation américain. J'ai hâte de voir car il est captivant par sa bande-annonce. Et j'ai adoré les deux premiers, où il y a beaucoup d'action. Le deuxième est Godzilla 2, qui est un film de science-fiction américain. L'univers du premier film m'a beaucoup plu, donc j'espère que le deuxième sera aussi fascinant que le premier.
Personnellement, pour cette année, il y a plusieurs films que j'attends avec impatience. Le premier est Hobbs & Shaw, qui est un film d'action américain. Plus précisément, il s'agit d'un spin-off de la série de films que j'adore, Fast & Furious, centré sur les personnages de Luke Hobbs et Deckard Shaw. La bande-annonce est juste géniale, je vous invite à aller la regarder. Le deuxième est bien évidemment Le Roi Lion, puisqu'étant une fan de Disney et étant fan du film d'animation sorti en 1994, j'ai naturellement hâte de le voir en film. En conclusion, nous pouvons dire que les films Disney sont décidément indémodables. Je redonne ainsi le micro à Tatiana et à bientôt.
Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et en espérant qu'elle vous ait plu. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir, chers auditeurs.
L. F.
M.
Radio.
L'émission du lycée des métiers François Mitterrand.